Nous avons plusieurs jours, une semaine et demie, plus même, non, une semaine et demie, de pratique, d'exercice, de silence derrière nous. Et nous pouvons en mesurer les effets sur le corps et l'esprit. Il y a un repos qui s'installe. Le système nerveux peut se reposer de cette habitude un peu obsessionnelle de toujours émettre. Nous devons faire, devoir, aller, réfléchir, faire pour l'autre, manger, remanger. Et nous pouvons ici arrêter, nous pouvons être dans un espace de réceptivité. C'est quand même bien. Juste recevoir. Alors, c'est pas très facile. C'est pas parce que je me dis, ah ben maintenant je vais juste recevoir, que je ne fais que recevoir. Ça continue à émettre. Mais nous pouvons recevoir cette émissivité. Et ça crée quelque chose dans le corps et l'esprit. Essentiellement, ce que ça crée, c'est que l'instant devient important, les projections commencent à être vues. Et tranquillement, ce qui s'installe à la place des obstacles, pas toujours, mais parfois, c'est ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Le Bouddha a toujours fait des séries. Il y a les quatre vérités, les trois caractéristiques, les quatre fondements de la présence, les cinq obstacles et les sept facteurs de l'éveil. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle de ces aspects de l'expérience, c'est de les mettre en lien avec notre propre expérience. Et ce sont des aspects qui sont impermanents, qui ne sont pas nécessaires à chacun. Quelquefois, ça vient. Et il faut savoir que ce qui agit avant tout, lorsque nous sommes en retraite, c'est le silence et le fait que nous nous arrêtions. Nous nous arrêtons. C'est ce qui permet cette transformation de l'habitude d'être toujours dans le temps, on pourrait dire. Une autre habitude où je viens dans le non-temps, dans le maintenant. Le premier de ces aspects, c'est la pleine conscience. Je vous dis les sept, la pleine conscience, la concentration, le calme, l'investigation, la joie, l'énergie et l'équanimité. La pleine conscience, elle est à peu près dans toutes les séries que le Bouddha a créé. La pleine conscience, c'est cet aspect de l'esprit qui est accessible extrêmement facilement. Si je me souviens d'être là, j'y suis. mais qu'il y a quand même de la peine à rester là. On voit bien comment, par exemple, en dialogue conscient, lorsque nous voulons essayer de parler en gardant le corps présent, ça demande un effort. C'est difficile à maintenir longtemps, tout le temps, et surtout dans les situations où tout d'un coup nous sommes sous l'emprise d'une soif quelconque. Nous perdons ce contact simple au corps. La pleine conscience, elle doit d'abord être travaillée de manière à ce qu'elle se libère des commentaires. Nous avons une mauvaise habitude de faire des commentaires à tout sujet. Et c'est pour ça que nous travaillons l'attention pure, c'est-à-dire un objet, le corps, ou les pensées dans leur aspect intrinsèque, ou les obstacles qui deviennent des objets de conscience, ou les facteurs de l'éveil. Est-ce qu'il y en a un maintenant de ces facteurs? En tout cas, pour moi, il y a la pleine conscience, il y a l'investigation. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire. Il y a l'énergie. Regardez pour vous pendant que je le fais, c'est intéressant. Il y a le calme. Il y a la joie, je suis contente de vous partager au mieux ce que ces différents aspects qui émergent dans l'exercice. Il y a une concentration suffisante, pas très profonde, mais suffisante. Et puis, il y a l'équanimité juste maintenant. Elle est un petit peu teintée de c'est pas vraiment une soif, mais c'est un élan pour être entendu. Donc nous pouvons de temps en temps questionner si ces aspects sont là ou non. La pleine conscience, nous en avons beaucoup parlé, je vais la laisser là. Elle est toujours accompagnée de ce qu'on appelle sampajana, c'est cette qualité de sagesse qui questionne où aller, comment faire, le quoi, pourquoi, comment et quand. La concentration, on en a aussi pas mal parlé. Non, je vais parler d'abord du calme. Le calme, c'est quelque chose qui arrive parce que nous avons fait l'exercice, parce que nous avons ramené la conscience encore et encore dans l'instant. Et tout à coup, quelque chose est complètement autre. Quelque chose s'arrête. Et la perception, c'est que c'est très bienfaisant, ouvert, tranquille. Il n'y a plus ce vague malaise de ne pas être dans la cible. J'ai l'impression de faire un bon travail et que l'expérience est tout à fait adéquate. J'y suis, quoi. C'est bon. Quelque chose se pose. Et c'est important de reconnaître que c'est une expérience de calme. De bien la goûter, de lui mettre des mots. De laisser le corps s'en nourrir, même si c'est furtif. Nous pouvons y revenir, sentir, goûter, parce que ça va disparaître. Mais si nous n'en avons plus le goût immédiat, nous en avons encore le souvenir. Et ces expériences se marquent dans le corps, dans les cellules du corps. Et lorsque nous revenons en retraite, simplement ça prend moins long pour que cette qualité de l'esprit revienne. Et à terme, ça s'installe. La concentration, c'est un calme qui est plus maîtrisé avec la concentration parce que j'ai pratiqué de manière plus constante et j'ai donné d'autres habitudes à l'esprit que cette habitude d'émissivité de l'ordinaire. La concentration s'installe et la concentration, elle a cette qualité de pouvoir jouer avec l'esprit. Et ça, c'est délicieux. Si je veux être que dans le corps, que sur la respiration, je reste que là. C'est complètement alerte, posé. Quelque chose est totalement disponible. Il y a cette impression de jouer avec l'esprit. Si je veux aller seulement dans l'espace, je ne vais que dans l'espace. Si je veux aller seulement sur la bougie, je vais seulement sur la bougie. Et l'esprit ne part pas. Il est comme maîtrisé. Mais là, tu restes sur la bougie. Ah, il reste. Et nous pouvons aussi faire le travail avec les pensées en restant un temps assez long. Sur le silence, sur la respiration. Ou sur ce qui émerge et passe. C'est aussi possible de poser la concentration, de mettre ensemble, on pourrait dire, concentration et pleine conscience, et de simplement rester longtemps sur ce qui émerge et passe. Dans le vipassana, on parle de concentration d'accès. On ne va pas dans des états de concentration, dans ce qu'on appelle les jhanas. Où on focalise sur un point pendant très très longtemps, de manière à ne plus rien entendre, ne plus rien percevoir. Si vous voulez savoir si vous avez suffisamment de concentration, vous pouvez compter 21 inspire et expire, 21 respirations. Et quand vous en avez 21 sans que l'esprit ne parte, vous pouvez questionner les forçages, hein, ou aller d'autres, quoi faire d'autre. Mais c'est vrai que si à 5 respirations l'esprit part, vous avez meilleur temps de continuer à focaliser l'esprit, de continuer à travailler la respiration ou autre chose. On peut employer bien sûr les paroles de metta, les paroles de refuge. Je les répète, l'esprit part et je reviens là, exactement là. La marche est un merveilleux outil de concentration. Le quotidien Mine de rien, quand je n'oublie pas d'être là, c'est de la pleine conscience, mais ça travaille aussi la concentration. Et quand la concentration est bonne, ce qui émerge, c'est la joie. La joie déjà du corps. Le corps est dans un état de profond bien-être. C'est dur que le corps soit là et que l'esprit ait toujours envie d'être ailleurs, ou d'être autrement, ou d'avoir autre chose. Pour le corps, c'est dur parce qu'il n'est pas... C'est comme s'il n'était pas posé à sa place. Et quand ça s'arrête, alors ce contentement s'exprime par des ressentis particuliers, des vagues de chaleur ou des intensités au niveau des sensations qui sont très bienfaisantes. Et ce sont des nourritures spirituelles précieuses parce que ça donne confiance dans le chemin. C'est ce qui fait que je peux faire l'effort quand les obstacles reviennent ou quand une perception, une émotion perturbatrice particulièrement forte émerge. Évidemment que cette joie ou cet intérêt qui contient de l'équanimité, du calme, il y a une intensité, mais ce n'est pas une intensité, quelque chose est posé dans cette intensité, il y a un équilibre. C'est anicca, c'est impermanent. Et quand ça disparaît, ben on m'a enlevé mon jouet. J'avais un bon jouet, et puis je ne l'ai plus. Donc c'est important de travailler ces états de joie spirituelle en lien avec l'équanimité et de nous souvenir que l'attachement est la cause de la souffrance. Dans le Dīgha-Nikāya, dans le Dhammapada, il est dit: de la soif émerge le chagrin. De la soif émerge la peur. Celui qui est libre de la soif est libre du chagrin, de même que de la peur. Et lorsque nous perdons ce goût . Il y a une certaine unification dans ces expériences de ce qu'on appelle pitié, de joie spirituelle. Nous revenons à la pleine conscience. Quelle est l'expérience maintenant? Et nous pouvons savoir. Il y a la pleine conscience juste maintenant. C'est moins agréable. Le moi doit faire un petit deuil. Mais ce qui est intéressant avec toutes ces expériences spirituelles, c'est qu'elles perdent de leur intérêt. C'est Suzuki Roshi qui dit: l'éveil, avant de l'avoir réalisé, c'est merveilleux, mais après, c'est rien de spécial. Et c'est vrai. C'est vrai que quand c'est venu quelquefois, et puis ça vient, puis c'est bon, j'ai vu, quoi. On s'habitue à toute forme de bonheur conditionné, qu'il soit du monde ou qu'il soit spirituel. Un poète qui disait « Les plaisirs sont comme des coquelicots. Vous saisissez la fleur et ses pétales se perdent. Ou comme un flocon de neige dans une rivière, un moment blanc et puis fondu à jamais. » Alors, ces plaisirs spirituels sont... Ça se répète. Nous pouvons les appeler. Il peut y avoir un élan pour que cette nourriture revienne. Et nous pouvons travailler l'attachement qui émerge lorsqu'il émerge. Juste en nous souvenant, attends, l'attachement, c'est souffrance. Papa là. Et si vous sentez l'attachement, au moins, faites-le en pleine conscience. Je sais qu'il y a l'attachement. L'investigation... Ce qu'on appelle Dhamma Vijaya, c'est une investigation du Dharma. C'est une qualité de... En fait, nous employons ce qui est dans le quatrième fondement de la présence. Nous employons la sagesse du Bouddha pour nous libérer dans l'instant. Ou pour valoriser l'instant. Et nous pouvons sentir quand Dukkha arrive. Il y a plusieurs formes de dukkha, de souffrance. Il y a la souffrance évidente. J'ai mal aux jambes, je dors toujours, c'est agité à mort, j'en ai marre. Le doute, il y a des souffrances évidentes. Mais il y a des souffrances, celles de perdre ce qui était tellement bon. Et puis il y a cette souffrance du manque qui fait que l'instant n'est pas vraiment assez. Je suis là, je suis assise, c'est pas mal, mais enfin c'est pas assez. Il y a ce sentiment de manque. Dukkha. Ce qui aide à lâcher, c'est l'équanimité. Lorsque il y a toute cette impermanence qui émerge dans l'instant, si je sais me souvenir, mais t'arrives à être sans préférence. Juste mon souvenir, ça crée quelque chose de très différent. Au lieu que je sois là en train d'essayer d'avoir le bon objet, la bonne manière, j'essaye d'être heureuse. Tu ne peux pas être sans préférence et tout à coup, je suis heureuse. Et au fond, avec l'équanimité, dukkha est compris. Tout d'un coup, nous comprenons. Le bonheur ne peut pas être après autrement ailleurs. Il ne peut être que là. Et c'est pour ça que lorsque nous prenons un temps dans l'exercice de la méditation de temps en temps, pour nous dire, mais comment est-ce que je peux faire juste pour être bien ? Ça crée ce lâcher-prise qui fait que le bonheur peut être maintenant plutôt que quand je serai comme il faut. L'investigation, c'est aussi ce questionnement par rapport à la soif. Dans l'exercice de la méditation, je veux réussir. Qu'est-ce qu'il y a à réussir ? Je veux réussir quoi ? Je veux réussir à être libérée. Comment être libérée maintenant ? Sentir combien l'aspiration, c'est autre chose qu'un moi qui est en manque. L'aspiration, c'est ce respect, cet amour pour la libération. Mais lorsque je n'y suis pas et que je souffre de ne plus y être, sans vraiment le voir, et que j'ai tellement envie de réussir autrement, c'est juste souffrance. Il faut voir cette soif. Je veux réussir. J'ai peur de l'échec. Je veux être louée. Je veux qu'on me voie, qu'on me trouve bien. C'est horrible, on ne va pas me trouver bien. C'est Shantideva qui dit « Certains me détestent, alors pourquoi est-ce que je devrais me réjouir d'être loué ? Certains me louent, alors pourquoi est-ce que je devrais me morfondre des voix qui me blâment ?» Il ne faut pas rêver. On ne va pas jamais être aimé de tout le monde. C'est embêtant, hein? Il y aura toujours des gens qui trouveront qu'on n'est pas super, que franchement, que si, que ça. Mais heureusement, il y aura aussi toujours des gens pour nous dire « Mais non, ça va bien, tu sais, t'es bien, tu fais bien. » C'est la dualité de la vie. Et le moi fonctionne, le moi il aimerait, il a de la peine à accepter cette dualité. Il fonctionne en termes de perfection, d'exigence, de contrôle. Compassion. Compassion pour cette... En fait, ce que nous comblons lorsque nous voulons tellement être vus et réussir, c'est le manque d'amour. Tellement important de se donner du metta. De prendre à l'inspire tout ce qui fait du bien et de se le donner à l'expire. Vous pouvez le faire encore, encore et encore. Ou de le prendre des autres, sentir dans cette salle, quelquefois on le fait le soir, mais sur cette planète, il y a plein d'endroits où les gens donnent de la bienveillance. Et nous pouvons le faire autant à l'horizontale qu'à la verticale. Je fais le plein d'amour. Je le donne et je le reçois. Et ça fait que ces soifs qui derrière ont toujours l'attachement à moi, et moi, il veut être tout puissant, il veut être éternel, il veut des choses qui sont hors du réel. Lui donner du bien, de la chaleur, c'est une manière, une bonne manière de lui permettre de lâcher. Et l'investigation, c'est aussi cette aspiration à la libération. Est-ce réel de la libération maintenant? Lorsque je suis en pleine conscience maintenant, il y a la libération. Ce sont, quelqu'un donnait l'image de gouttes d'eau qui tombent dans un baquet. À chaque fois que juste maintenant je suis là, ça fait une goutte d'eau. Alors je ne sens pas encore la libération, parce que l'investigation, c'est aussi ce changement de regard où tout à coup, plus ou moins tout à coup, peu à peu, je me mets à la bonne place. C'est-à-dire que je sais que je suis limitée, que je suis dans la dualité, que j'accepte qu'il y a dukkha à l'intérieur de moi, que je suis imparfaite. Je vois quand les soifs émergent. Et je sais que ça n'est pas moi, à moi, le mien. Alors qui suis-je? Suis-je? Est-ce qu'il y a besoin d'une réponse? Ou est-ce que je peux rester avec ce qui suis-je ouvert, avec l'espace, le silence, et j'y suis? Je suis ça. Cette espèce de d'instant qui arrive et passe, éphémère, présent, autant intérieur qu'extérieur. Et pour pouvoir goûter cet instant d'être, il faut une absence de soif. S'il y a la soif, il y a une emprise. L'énergie, c'est un autre de ces... Je ne les dis pas dans l'ordre, mais enfin, ça ne fait rien. L'énergie, c'est quelque chose qui se développe, mais aussi qui s'installe grâce à ce repos du système nerveux qui n'a plus besoin d'émettre. Et l'énergie peut être très puissante. Je me souviens dans une retraite, je crois que pendant 7 jours, je ne sais plus si c'est 7 ou 10 jours, je n'ai absolument pas dormi. J'étais complètement réveillée toute la nuit et je ne me fatiguais pas du tout. Et puis je comptais les jours, puis je me disais, mais tiens, je n'ai pas dormi. Et vraiment, j'étais couchée dans ma tente, c'était sous tente. Ça, c'est l'énergie spirituelle qui se manifeste. Et c'est anicca, après ça passe. Mais ça donne confiance dans le chemin, ça donne confiance dans pas moi, mais le dharma en moi. Arrêter de tout lier à ce moi qui veut, qui aimerait, qui devrait. Ah, le dharma en moi. Et quand je ne sais plus rien, je peux laisser faire le Dharma. Lui, il sait. Évidemment que l'énergie demande un effort, et un effort important. C'est quand même, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est quand même dans la mesure où je me donne à l'exercice, pas seulement d'une manière routinière, mais d'une manière créative, en osant pousser un peu l'effort, aller trop loin. Je me souviens d'une retraite où, je ne sais plus qui l'enseignant, je crois que c'était Joseph Goldstein qui avait dit « Eh ben, faites une heure de retraite sans bouger d'un rien du tout. » C'était une de mes premières retraites. Je m'étais dit « Bon, ok, je ne bouge pas. » Puis je ne bougeais pas, mais ça devenait tellement horrible. J'ai beaucoup, beaucoup de douleurs dans ma pratique. Ça devenait tellement horrible que j'imaginais le Christ sur la croix. Je me disais « Ben, tu ne bouges pas. » Je n'avais pas bougé. Mais c'était resté horrible jusqu'au bout. C'est le Bouddha qui dit « Même si ma peau, mes tendons et mes os seuls demeurent, et que mon sang et ma chair dépérissent, je ne renoncerai jamais à ma quête et ne m'éloignerai jamais du chemin de bonté et de sagesse. » Des fois, ces efforts héroïques, ils sont nécessaires. Pas toujours, mais des fois. L'effort que nous faisons est de quatre couleurs. Lorsque l'expérience est douloureuse, nous cherchons comment l'accueillir et la lâcher. Nous ne cherchons pas du tout à faire venir l'expérience douloureuse. J'ai jamais eu personne en entretien qui me disait oh, « je ne sais pas comment faire venir le sommeil ». Ou bien, je ne sais pas comment faire venir l'agitation. J'aimerais tellement avoir du doute, mais je n'arrive pas à le faire venir. Mais essayez de le faire venir, on ne peut pas. Hein. Donc ça, nous n'essayons pas spécialement à le faire venir. On peut le remarquer. Nous cherchons à faire venir ces facteurs de l'éveil lorsqu'ils sont absents. Il y a cette quête de calme, de conscience, d'investigation, d'équanimité. Et lorsque un de ces facteurs émerge, nous pouvons sentir comment nous cherchons à le maintenir. Nous voulons le goûter suffisamment longtemps. Et c'est juste de faire ça. Et l'autre aspect de l'effort, c'est le non-effort, qu'il est très important de questionner de temps en temps. Arrêtez d'essayer. Nous essayons souvent trop dans l'exercice de la méditation. On a goûté à un état qui était clair et bienfaisant et tranquille et avec cette impression d'être dans la cible. Et puis ça change et je fais un monstre effort pour retrouver ou avoir autre chose. Ou... Ça ne sert à rien du tout. La seule chose qui serve à quelque chose, c'est de questionner qu'est-ce qui est là et de venir humblement reconnaître « Ah ouais, ben maintenant il y a ça. » Et c'est la libération. Lorsque je lâche cette soif de manipuler toujours l'expérience, je suis libre maintenant. Et c'est touchant de voir comment cette espèce de réflexe de se mettre contre l'expérience qui change dans le sens que je n'aimerais pas, il est puissant et profond. Ouais. Et c'est lui qui nous enlève l'énergie. C'est ça qui nous fatigue tellement. C'est que je suis toujours en train de croire qu'il faudrait faire mieux, faire autrement, faire moins bien, tâcher d'enlever ce qui est moins bien. Je vais vous dire un secret dans une retraite. Si vous ne faites rien d'autre que de venir vous asseoir, aller marcher, aller manger, venir vous asseoir, aller marcher, aller manger, vous ferez exactement les mêmes progrès que si vous faites tout ce que vous avez fait pendant cette retraite. Je crois vraiment que c'est vrai. Hein? Mais on ne peut pas. Et puis, l'équanimité. L'équanimité, elle vient lorsque nous avons suffisamment été en compassion avec les moments douloureux, sans cet instinct de rejet. Et lorsque nous avons été suffisamment dans la joie des moments agréables et bienfaisants, sans être dans l'attachement. Alors l'équanimité s'installe. J'arrive mieux à être sans préférence. Et c'est comme si j'étais prête à accueillir tout. Ça vient et c'est bon. Et la compréhension du karma, peut-être que mon enseignement hier soir était un peu compliqué, mais la compréhension du karma implique une aide par rapport à l'équanimité, parce que ça arrête cet esprit qui veut toujours savoir pourquoi. Mais pourquoi j'ai un problème avec celui-ci? Mais pourquoi je suis toujours dans cette situation-là? Mais pourquoi c'est toujours cet obstacle qui vient? C'est le mystère du karma. Les attirances et les rejets, qu'ils soient interrelationnels ou autre, c'est pas notre problème. C'est le résultat de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Le Bouddha l'a dit très clairement avec l'histoire de la flèche empoisonnée. Il dit, mais si vous recevez, si quelqu'un reçoit une flèche empoisonnée, vous n'allez pas commencer à demander, mais quel est le poison, quel est le bois avec lequel cette flèche est faite, qui c'est qui l'a envoyé. La personne, elle sera morte depuis longtemps. Ce que vous faites, c'est retirer la flèche. Et retirer la flèche, c'est comprendre où nous pouvons donner notre énergie. C'est comment maintenant, dans ce corps et cet esprit, je peux manifester la fin de la souffrance. Ça n'est pas en manipulant le karma. De toute façon, on ne peut pas. Donc, nous acceptons, nous essayons d'accepter ce mystère de la multiplicité et de la complexité de la vie. Et nous faisons notre travail à l'intérieur. Parce que c'est le seul endroit où nous pouvons être libérés. Le moi, il a l'impression que s'il avait des conditions parfaites, ce serait plus simple. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. C'est c'est un poète qui dit « C'est facile d'être agréable quand la vie coule comme un chant. Mais l'homme qui a de la valeur est celui qui peut sourire quand tout va mal. » L'équanimité, qui est en même temps une sagesse et une ouverture du cœur. Je ne rejette rien ni personne. Et ça ne veut pas dire que je ne mets pas de limites au niveau interrelationnel. Les limites doivent parfois être très fortes. Mais je ne rejette pas l'être qui est derrière. Monsieur Horder qui dit « Comment atteindre l'équanimité ?» Eh bien, en ne faisant pas de grandes choses. Pourquoi les saints sont-ils des saints ? C'est parce qu'ils savent être gais quand c'est difficile d'être gais, être patient quand c'est difficile d'être patient. Ils ont persévéré quand ils voulaient être tranquilles et ils sont restés silencieux quand ils voulaient parler. C'est tout. C'est simple. Mais c'est assez difficile. Donc, avec ces facteurs de l'éveil, nous passons des plaisirs du monde aux plaisirs spirituels. Et la différence, c'est que nous sommes vraiment à l'intérieur. Le travail se fait vraiment à l'intérieur. Mais ce n'est pas la fin du chemin, parce que ce que le chemin demande, c'est de passer du monde au non-monde, de l'expérience à la non-expérience. De l'être ou de l'avoir ceci ou cela à l'être qui est gratuitement, sans enjeu, sans demande, sans regret. Je vais finir avec une parole de Confucius. S'il y a la clarté dans le cœur, il y aura la beauté dans le caractère. S'il y a la beauté dans le caractère, il y aura l'harmonie dans nos foyers. S'il y a l'harmonie dans nos foyers, il y aura l'ordre dans les pays. S'il y a l'ordre dans les pays, il y aura la paix dans le monde. Tout commence avec la clarté dans le cœur. Nous pouvons prendre juste quelques minutes en silence.